ces ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast.
Salut à tous, c'est Olivier Audoux des ondes Vocast, épisode de février. Ce mois-ci, je reçois Bruno Dubois, directeur du développement d'Europe 2. Europe 2 est revenu sur les ondes depuis le 1er janvier. Bruno Dubois nous révèle les coulisses de la préparation de son lancement, nous explique son nouveau format, son ADN, ses projets et il nous fait un premier bilan de ce premier mois sur les ondes. Avant cela, dans notre partie Actu Débat, on fait un petit tour de l'actu radio. Julien Vigier viendra nous partager ses carnets d'écoute. Rémi Bertolon, lui, nous parlera des animateurs locaux d'Europe 2 extraits à l'appui. Et puis, je vous parlerai de la nouvelle étude Ear Insight et de son chamboulement sur le classement des audiences radio. Des ondes Vocast, épisode de février, c'est parti.
Des ondes Vocast, l'actu débat.
Et j'accueille tout de suite Julien Vigier, directeur du studio VO2X. Salut Julien.
Salut Olivier, salut à toutes et à tous.
Alors, dans un instant, tu vas nous faire partager tes carnets d'écoute, mais tout de suite, et comme chaque mois, voici le Zoom Actu. Un condensé de l'actu radio du mois dernier en une minute. Alors tout d'abord, à Radio France, on a eu la démission de la patronne de France Culture, Sandrine Trainer. On se rappelle, le mois dernier, on en avait parlé, un article de Libé avait pointé du doigt son management autoritaire. Et bien voilà, elle a décidé de partir. Toujours à Radio France, on a eu cet incident lors du Hyper Weekend Festival dans la maison de la radio et de la musique. Oui, le sol s'est dérobé sous le pied des festivaliers, mais apparemment plus de peur que de mal. Alors on le sait, la maison de la radio veut s'ouvrir plus souvent au public, eh bien il va falloir sécuriser tout ça. Du côté des radios privées, cette fois, on a eu cette amende record de 10 millions d'euros que Fun Radio doit payer à NRJ, et cela remonte au fameux Fungate en 2016, quand Bruno Guillon avait demandé à ses auditeurs de favoriser Fun Radio lors de ses enquêtes de médiamétrie. Eh bien oui, NRJ s'est estimé lésé. Et voilà, et ça fait donc un peu cher la blague. Et puisqu'on parle de sondage, eh bien le mois dernier est sorti pour la première fois Ear Insight, la nouvelle formule du panel radio qui mesure les habitudes d'écoute des auditeurs sur de longues périodes. Pour la première fois, cela a été mesuré par un boîtier porté par des panélistes à leur ceinture et les résultats ont été étonnants. On en reparle dans quelques minutes. Et toujours dans l'actu, cette fois-ci au Sénat, la commission de la culture a organisé une table ronde pour parler de l'avenir de la radio avec le DAB+, à réécouter en ligne sur le site du Sénat. Bon, en gros, les opérateurs ont dit qu'ils soutenaient le DAB+, mais ils demandent plus de temps et d'argent pour accompagner son développement en cette période de crise. On vous invite enfin à réécouter aussi les replays des débats de la 5e édition de Médias en scène, ce bel événement annuel avec toujours un parterre d'intervenants prestigieux du monde des médias. Tout est disponible aussi ici en ligne.
Des ondes Vocast.
Et enfin, puisqu'on est dans l'univers des conférences, parlons maintenant des Radio Days Europe. Elles se reviennent en mars, ce sont 3 jours de conférences en anglais avec des intervenants prestigieux, des dirigeants et des personnalités de la radio et de l'audio du monde entier. Cette année, les Radio Days Europe se passent à Prague, des ondes Vocast et partenaires presse de l'événement. On y sera et on vous fera un petit bilan dans notre épisode d'avril. Mais en attendant, et si vous n'y êtes jamais allé, on vous encourage à aller faire un petit tour au Radio Days Europe pour les conférences, pour votre réseau ou encore pour chercher des nouvelles idées pour vos radios ou pour vos podcasts. Pour la billetterie et le programme, rendez-vous sur radiodayseurope.com. Bon Julien, place à tes carnets d'écoute. Ce mois-ci, 2 coups de cœur et 1 coup de gueule. On commence par le coup de gueule ?
Oui, c'est ça, malheureusement, on va démarrer par un mauvais point, celui qui concerne le morning d'ado, ex-swig, ex-ado. J'ai fait le tour des mornings il y a quelques jours et ça m'a piqué un peu l'oreille. Alors, le principe, c'est une co-animation entre Priska, qu'on avait l'habitude d'écouter sur Skyrock notamment, et DJ Mist, avec pour ambition de parler hip-hop, de donner des infos sur les artistes rap et R&B diffusés sur la station, et de se remémorer en fait les anciennes histoires autour du hip-hop, parce que c'est un peu le credo de ado en fait, la nostalgie. Alors si t'aimes le hip-hop, tu connais déjà la plupart des infos, je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose, et à la fois, c'est finalement un peu trop spé pour ceux qui sont là juste pour la musique. Côté bonne humeur, il y en a pas beaucoup malheureusement. L'animation, j'ai pas trouvé ça très bon. Je suis désolé, mais techniquement, Prisca, c'est pas ça. Les accroches, le rythme, j'ai comparé avec Vibration, Voltage 8, Toulouse FM, Contact. On a partout des teams qui sentent le matin, qui respirent l'animation morning. Et là, le duo chez Ado, ça va pas bien. Les mots sont relativement neutres, peu d'humeur. Le DJ, lui aussi, est assez neutre, on va pas se mentir. On ne sait pas vraiment qui il est. Le personnage n'est pas travaillé.
Bon, à retravailler pour Ado. Alors, ta prochaine écoute, c'est cette fois-ci dans l'univers du podcast.
Oui, alors là, vrai coup de cœur, Olivier. La série sur Léon Blum par France Inter, Léon Blum, vie héroïque. On a 9 épisodes de presque une heure à chaque fois, mais attention, c'est tout à fait ce qu'il faut pour raconter la vie de cet homme qu'on croit connaître, mais finalement, beaucoup plus par son passage au Front Populaire de 36 que pour le reste. Et pourtant, sa vie est passionnante. La vie d'un homme central, politiquement, culturellement et dans le sens de l'histoire aussi, car Blum, ça démarre avec Dreyfus, et ensuite la guerre, il fut déporté, et puis son héritage aujourd'hui, c'est la gauche, Blum. Philippe Collin est le narrateur, il y a des invités. C'est tout bonnement passionnant, addictif même.
Bon, on va écouter alors. Et ton coup de cœur suivant, c'est toujours dans le podcast, mais par un studio indépendant cette fois.
Oui Olivier, autre podcast complètement incroyable, pas facile à écouter, je vous mets en garde. Cette fois-ci, ça se passe du côté du studio Paradisio avec 75-019 Daesh. C'est l'interview de la sœur du djihadiste français Boubacar El-Hakim qui a été membre imminent de la cellule des Buttes-Chaumont, un émir en fait de Daesh. Il a démarré tout ça au début des années 2000 et c'est justement ce qu'elle raconte. Elle raconte, elle, son quotidien de petite sœur, celle de petite sœur d'un monstre, mariée de force, voilée intégralement à 9 ans, enfermée chez elle. On apprend en fait énormément sur ce djihadisme de l'époque, peu pris au sérieux finalement par les autorités et malheureusement annonciateur des attentats de Charlie. Voilà, ça continue en ce moment, il y a de nouveaux épisodes qui viennent de sortir. 75-019 Daesh.
À écouter donc. Merci Julien, belle sélection ce mois-ci.
Eh ben merci Olivier, on se retrouve le mois prochain.
Et tout de suite, on va faire un petit décryptage de Ear Insight donc. Ear Insight, c'est la nouvelle enquête de Médiamétrie qui capte les habitudes d'écoute en radio. Alors autrefois, ça s'appelait le panel radio. C'était fait avec des carnets d'écoute maintenus à la main par un panel d'auditeurs. Désormais, avec Ear Insight, ils portent un boîtier électronique avec eux, attaché à leur ceinture. Ce boîtier reconnaît automatiquement les radios qu'il écoute tout au long de la journée avec une technique de watermarking. On explique. Les radios placent des tags, c'est-à-dire des marqueurs audio, au sein de leur programme. Ces marqueurs sont inaudibles à l'oreille humaine, mais ils permettent à ces fameux boîtiers électroniques d'identifier automatiquement le nom de la radio que vous écoutez. Alors maintenant, quelles sont les différences entre Ear Insight avec l'enquête classique Ear National, l'ancienne 126 000 ? Eh bien d'abord, il y a justement ce mode de mesure automatique, donc en théorie plus fiable que le déclaratif, qui lui est fait au téléphone comme un sondage classique. Alors plus précis, oui, mais non, puisque le panel de Ear Insight à l'heure actuelle ne compte que 5000 personnes, tandis que Ear National interroge, lui, 100 000 personnes sur une année entière. Donc ça fait environ 25 000 personnes par enquête, puisqu'il y a 4 vagues sur l'année. Donc ça fait mine de rien 5 fois plus de personnes dans l'échantillon de Ear National. Ensuite, dans Ear National encore, on mesure une audience veille, donc c'est une audience quotidienne. Tandis que Ear Insight, avec le boîtier, mesure une audience sur une échelle de temps d'une semaine ou d'un mois entier. C'est pour ça que le taux de pénétration de Ear Insight est plus élevé, jusqu'à 93% d'auditeurs sur un mois, contre seulement 70% environ sur Ear National pour les écoutes quotidiennes. Ensuite, Ear Insight n'est pas parfait non plus, car ce boîtier ne capte pas les écoutes faites au casque, que les panélistes doivent donc toujours déclarer à la main. Alors, est-ce qu'ils le font vraiment ? On ne sait pas. Il peut aussi arriver que les panélistes oublient de prendre ou d'allumer leur boîtier, notamment au réveil, alors que c'est le prime time de l'audience radio. Dommage. Enfin, on reproche à ces boîtiers de capter aussi des écoutes passives, voire involontaires, par exemple lorsqu'on passe dans un magasin qui diffuse de la radio et où l'attention de l'auditeur est somme toute relative, voire inexistante, et donc ce type d'écoute n'intéresse pas vraiment les annonceurs. Bon, passons aux résultats. Les radios ont tremblé, car forcément, quand on introduit une nouvelle mesure d'audience radio, ça peut chambouler le classement. Eh bien, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Médiamétrie ne publiera les résultats de Ear Insight qu'une vague sur deux, septembre, octobre et janvier, mars, pour souligner que seul Ear National reste la référence de la mesure de l'audience radio. Alors, les résultats dans le détail. D'abord, au niveau de la bataille des généralistes, eh bien, RTL reprend la première place devant France Inter, tandis que Europe 1 et RMC, elles, s'enfoncent dans le classement. Elles sont doublées notamment par pas mal de radios musicales. France Info aussi, elle passe de la 3e à la 7e place. Et France Bleu aussi, elle perd 3 places. Alors, chez les musicales justement, eh bien, les formats musicaux adultes semblent bénéficier beaucoup eh bien, de cette nouvelle mesure Ear Insight. En mensuel, tenez-vous bien, Nostalgie devient 2e radio de France, toutes radios confondues, si, si. RFM et RTL2, elles, eh bien, passent à la 5e et 6e place des audiences radio, c'est incroyable. Et Europe 2, ex-Virgin, gagne elle aussi jusqu'à 5 places, incroyable. Chez les radios musicales jeunes, elles, eh bien là, on a Skyrock qui perd de 3 à 5 places, Fun qui descend aussi un petit peu, tandis que Energy, eh bien, résiste, elle reste relativement stable. À noter que dans le top 20, eh bien, deux radios au format relativement de niche ou disons éclectique font aussi leur apparition, Nova et TSF Jazz à la 19e et 20e place, alors qu'elles n'apparaissent pas dans l'enquête Ear National. Et d'ailleurs, on vous invite à retrouver ce comparatif du top 20 de l'audience radio entre Ear National et Ear Insight grâce à notre graphique exclusif qui a été préparé par notre ami Hervé Marchais du Transistor. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur vocast.fr pour voir ce graphique. Voilà pour la page consacrée à Ear Insight et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Tu es animateur du voice track Rémi et Jam, qui est diffusé sur plusieurs radios en France, et notamment sur RFM Réunion. Alors, dans quelques instants, tu le sais, je vais recevoir Bruno Dubois d'Europe 2 pour notre grande interview. Mais avant cela, eh bien Rémi, tu t'es intéressé justement à Europe 2, mais plus précisément à ses locales.
Et oui, comme vous le savez, les musicales ont des animateurs en région et c'est l'occasion d'en parler dans ce podcast. Des animateurs qui ont une véritable proximité avec les auditeurs, ils apportent une touche, une facette locale, ils offrent des émissions et des jeux rien que pour eux. Et pour être passé dans ce type de réseau, on oublie souvent que c'est un vrai contact avec les auditeurs. On pense au bleu, on pense aux radios chez les indés, mais effectivement, faut pas dénigrer le travail qui est fait de proximité. Les auditeurs ont l'habitude de nous écouter sur ces tranches horaires. Ils sont actifs aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un joli rapport que la radio a avec son public. Donc, on va rendre hommage à tout le boulot qui est rendu par les animateurs. Et puis, au passage, on parle aussi des journalistes qui font un travail de fond hyper intéressant.
Alors, on commence avec une animatrice. Et d'ailleurs, c'est ta chouchou, celle-là.
Oui, c'est l'occasion d'écouter des animateurs en région qu'on aime bien et c'est une animatrice que je ne connais pas à titre personnel, que j'ai découvert pendant les vacances, puisque c'est en Vendée. Oui, en Vendée, il n'y a pas que cette excellente radio Alouette. Il y a aussi Europe 2 Vendée, une ancienne radio franchisée qui a été reprise par la suite à 100% par le groupe Lagardère. Il faut juste signaler que c'est l'une des rares stations locales de Virgin Radio Europe 2 maintenant à posséder son propre site internet. Donc voilà, on va écouter cette animatrice qui s'appelle Nathalie Meunier. J'adore sa voix, j'adore sa personnalité. C'est aussi ça la radio, même quand on y bosse ou quand on est passionné, qu'on écoute tout le temps la radio, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et on commence par un petit top H.
Place 9 à La Roche, il est 14h. Avec nous, Vianney Tiran.
Voilà les temps horaires qui sont courts sur Europe 2 et le speak juste après, Nathalie Meunier nous met au sport.
Bienvenue tout le monde.
Europe 2, la radio partenaire des meilleurs événements de la région.
Et notamment du triathlon Nature et Famille au Sable d'Olonne. Ce sera le dimanche 4 juin, plage des Granges. Une bonne dose de sport en famille, entre amis, dans un super cadre en bord de plage. Triathlon accessible à tous. Et si je vous en parle maintenant, c'est que les inscriptions sont ouvertes pour participer à ce bel événement. Vous allez vous inscrire sur le site triathlondesolonne.fr. La douceur d'Amy Simone. La nouveauté de Phil Boriva. Et le son de Dépêche Mode? On se fait tout ça dans le quart d'heure sur Europe 2, le meilleur son.
Voilà, Nathalie Meunier, entre midi et 16h. Et puis le matin, il y a les infos sur Europe 2 Vendée avec Ludovic Lejeune.
Maintenant, un petit tour du côté de la Méditerranée.
Et oui, dans le sud, à Nice, il y a Europe 2 Côte d'Azur, avec entre midi et 16h Léo. Et je suis tombé sur cette séquence, alors très sympa, quand c'est un des membres de l'équipe de la régie qui débarque dans les studios, bah ça donne ça.
Europe 2 Côte d'Azur avec vous ce lundi 16 janvier. J'espère que bah, tout va bien pour vous.
Europe 2 Côte d'Azur.
Car aujourd'hui, c'est le jour le plus déprimant de l'année, le fameux Blue Monday, dont tous les animateurs radio et articles Facebook vous bassinent depuis 5 ans. Mais nous, on est heureux, car c'est l'anniversaire de notre commercial Alexandre, que vous connaissez pas, mais c'est notre commercial et il est là. Coucou Alexandre.
Coucou Léo.
Il est stressé. Qui est Alex, qui est nouveau, qui nous a rejoint il y a quelques semaines et qui s'occupe de vendre la pub. Voilà, t'es le mec qui vend la pub. C'est à cause de toi qu'il y a des pubs à la ouais, radio. T'es ça. Content de toi? Bah voilà, bah super. Et en plus, toi, t'as choisi le jour le plus déprimant de l'année pour fêter ton anniversaire. Toi, t'es un vrai champion du monde, toi. Bon, écoute, Alex, de la part de, bah, déjà de toute l'équipe d'Europe 2 et de tous les auditeurs d'Europe 2, bah, on te souhaite un bon anniversaire. Bon quart de siècle, mon gros. On dit merci.
Eh ben merci.
T'es pas prêt pour être animateur radio toi. La suite du meilleur son Europe 2, ça sera avec Youngbloods, Tichou, dans quelques minutes sur Europe 2 avec un gros classique de Nirvana et AD.
C'est génial, bien joué Léo sur Europe 2 Côte d'Azur.
Et enfin, deux animateurs pour finir.
Oui, j'ai deux speaks à vous faire écouter pour terminer. Tout d'abord dans les montagnes, à Grenoble, sur Europe 2 Alpes, c'est David qui vous attend avec des jeux.
C'est ça Europe 2, le meilleur son, et c'est très très bon ça, Foster the People.
Europe 2 vous offre vos forfaits de ski.
Bah oui, vous gagnez ça cette semaine sur Europe 2, le meilleur son. Salut Jennifer.
Salut David.
Bienvenue sur Europe 2, comment ça va?
Merci.
Bien repris la semaine?
Bien repris, super.
T'habites à Saint-Martin derrière toi, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Et t'as joué tout à l'heure, tu t'es inscrite au standard, et ben tu gagnes aujourd'hui tes 4 forfaits de ski pour Arèche-Beaufort en Savoie. C'est bon, bravo.
Super, merci beaucoup.
Ça
super.
C'est la première étape, puisque vendredi il y aura le tirage au sort pour gagner un séjour pour 4 personnes, 3 jours et 2 nuits à Arèche-Beaufort, dans le village station d'Arèche-Beaufort, qui est juste magnifique, hein, clairement.
Je croise les doigts alors.
Bah ouais, tu connais le domaine ou pas?
Pas du tout.
Et bah l'occasion de découvrir avec toute la neige qui est tombée, c'est parfait ça. Et bah rendez-vous super. Peut-être vendredi. Bonne chance
merci
à
beaucoup,
toi
merci.
Et bonne journée. Salut Jennifer.
Un super insert, nickel, bravo David. Et on termine avec Europe 2, Midi Pyrénées. C'est pour faire plaisir à Anthony aussi. On est à Toulouse avec Guillaume entre midi et 16h.
Europe 2, le meilleur son avec Muse.
L'ascenseur Europe 2. Oserez-vous monter jusqu'à 5000 euros?
Oui, c'est la question qu'on vous pose tous les matins à 8h25 et à 11h25 dans le Morning Sans Filtre chez Paul de Montreuil. Pour jouer, c'est pas compliqué. Vous avez 15 minutes maintenant et pas une de plus pour vous inscrire en envoyant cash par SMS au 7 12 13. 15 minutes, pas 16, hein. Maintenant vous le faites, cash 7 12 13, vous vous inscrivez pour tenter de repartir avec 5000 euros dans l'ascenseur Europe 2.
Voilà le nouveau jeu lancé par Europe 2. On aurait pu vous faire écouter plein d'autres animatrices et animateurs sur le réseau Europe 2 ou d'autres musicales. D'ailleurs, c'est l'occasion de les saluer, Olivier.
Eh bien oui, salut à tous. On aime la proximité et le local dans ce podcast. Rémi, on te retrouve le mois prochain. Merci à toi. Et tout de suite, donc, on reste branché sur Europe 2, direction la rue des Cévennes, à la tête du réseau.
Des ondes vocastes, l'invité.
Bonjour Bruno Dubois.
Bonjour Olivier.
Alors, tu es le directeur du développement d'Europe 2 depuis septembre dernier. Alors moi, personnellement, je t'ai connu dès le début des années 90. J'étais auditeur de Fun Radio, tu étais à l'époque Bruno 13. Et donc, ouais. Et on commence toujours par cette question. Qui es-tu Bruno Dubois et quel est ton parcours?
Bah à la base, je suis un animateur, hein, comme tu viens de le dire, et c'est important. Donc, j'ai eu la chance de parler dans un micro, de jamais arrêter de parler dans un micro, parce que je pense que quand on a été animateur un jour, on le reste toujours. Aussi bien quand on s'exprime auprès d'autres animateurs pour leur donner des pistes, pour les conseiller, pour les coacher, ou même pour construire des stratégies programmes. Comme on pense à l'auditeur, on pense à ce qu'on disait, comment on l'exprimait à l'antenne, et ce qui va toucher l'auditeur. Donc oui, j'ai été animateur. À partir de 1900, oula, on n'en parle même pas, mais en tout cas, j'ai commencé en local à Aix-en-Provence, et puis après, je suis allé à Nostalgie quand c'était à Monaco, dans les fins des années 80, et puis Fun Radio, comme tu le disais, pendant 5 ans, 89-95. Après, je suis retourné à Nostalgie, où j'ai rencontré quelqu'un d'important pour moi qui s'appelle Stéphane Bosque. Et derrière, RTL 2 pour faire la matinale, Europe 2 en tant qu'animateur. Et puis à partir de 2004, j'ai quitté la posture d'animateur pour prendre en charge la stratégie et le pilotage d'une radio puisque j'étais le directeur des programmes d'RFM. Derrière, à partir de 2010, directeur des réseaux de Virgin Radio et d'RFM. Quand j'ai quitté le groupe Lagardère en 2014, j'ai monté une start-up qui s'appelait Akerbis, qui était spécialisée dans les smart radios. Et puis, à partir de 2016, j'ai pris la destinée en main de Sud Radio pour reconstruire cette marque, reconstruire ce programme, repartir de zéro, on va dire, pour arriver à en faire un beau succès dans une radio généraliste que j'ai quittée en août 2022 pour prendre la direction du développement avec Stéphane Bosque et Frédéric Pau pour pouvoir poursuivre le cheminement de ces nombreuses fréquences ex-Virgin Radio qui sont redevenues Europe 2, mais surtout pour donner un nouvel élan à ce retour d'Europe 2 ou à cette découverte d'Europe 2 pour certains.
Alors donc tu étais sur Sud Radio qui effectivement a connu des belles audiences ces dernières années, une belle remontée d'audience, quasiment un point d'audience cumulé
en national. Première radio des Indés en juillet pour ma dernière vague.
Et comment on passe du coup d'une radio généraliste à une musicale ?
De la même manière que j'étais passé de musical à radio généraliste, je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on segmente vraiment les formats. La radio, ça reste de la radio, c'est de l'accompagnement, il y a une partie sensibilité radio, il y a une approche de l'auditeur, il y a une appétence, il y a une empathie, il y a aussi du marketing. Et pour avoir longtemps côtoyé ou croisé des consultants anglo-saxons, eux, ils étaient un jour sur une radio musicale et puis le lendemain, ils faisaient un consulting pour une radio talk ou une radio de news. Donc, il y a quelque part, quand on a le sens du programme, ce que je pense avoir de par ma carrière, je pense que voilà, on s'adresse à des auditeurs et toutes les techniques, tous les éléments qui font le succès d'une radio, qui font même le succès plus généralement d'un programme, que ce soit un programme musical ou que ce soit un programme de talk généraliste ou d'information, de toute façon, il y a ce sens qui prévaut et donc c'est comme ça que au final on peut le faire.
Alors, tu es directeur du développement d'Europe 2. Comment s'articule ton rôle avec celui de Frédéric Pau, qui est directeur des programmes, et de Stéphane Bosque, qui est le directeur des radios musicales de Lagardère, Europe 2 et RFM?
Alors, c'est vrai que c'était un gros changement qui a été décidé en juin dernier. 4 mois pour changer une marque, pour reconstruire une stratégie, reconstruire un programme, c'est très, très, très court, parce que moi, je suis arrivé au 1er septembre. Écoute, c'est monter une équipe, De toute façon, on fait jamais rien tout seul. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, quand Stéphane m'a demandé de le rejoindre pour relever ce beau challenge, j'ai dit oui tout de suite. Et puis, derrière, Fredo, on se connaissait un tout petit peu moins. Frédéric Pau, donc, qui est le directeur délégué, et Stéphane étant le directeur général des deux radios RFM Europe 2, on s'était déjà croisés, mais finalement on a monté une équipe et ça nous a permis de brainstormer, d'avancer et puis surtout de mettre les équipes en phase de combat. Et moi, j'adore être en mode projet et emmener les équipes avec moi. Donc, c'est ce que je m'y suis attelé dès le 1er septembre en arrivant, avec une charge de travail qui était assez lourde. Parce que certes, il y a les choses qu'on voit et puis il y a tout ce qui est back office, tout ce qu'il a fallu construire, reconstruire et décliner aussi bien sur nos programmes, sur le digital ou même sur le terrain en région. Donc moi, ta question, parce que j'ai un peu détourné la question, c'était de savoir ce que je faisais exactement. Moi, je pilote à la fois la com avec un directeur de com qui s'appelle César Cornil, la promo aussi avec les équipes en région qui s'occupent de la promo, le digital avec l'équipe digitale, et puis je pilote avec Fredo et Stéphane la stratégie programme. Voilà.
D'accord, donc tu es impliqué aussi sur la partie programme.
Bien sûr, tout à fait.
D'accord. Alors, il y a eu, j'imagine, donc cette phase de pré-lancement qui, du coup, a été assez intense. Et du coup, maintenant, voilà, ça a démarré depuis un mois. Quel est ton premier bilan de ce premier mois d'Europe 2 ?
Bah, écoute, c'est assez paradoxal parce que pendant 4 mois, on avait vraiment la tête dans le guidon avec toujours des questions à se poser. Est-ce qu'on a oublié un truc? Est-ce qu'on a pensé à tout? Parce que quand il y a une charge importante comme ça, se dire qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait? Qu'est-ce qui nous manquerait? Finalement, tout s'est un peu déroulé comme sur des roulettes. Et pourtant, c'était pas évident, hein, construire une grosse campagne de com, construire un spot, construire une identité et puis bien valider une communication, expliquer ce qu'on veut faire, faire partager le message, partager le projet, partager l'entrain. Ça demande beaucoup de travail, de formulation et de reformulation. Et ben, je dirais que là, sur le lancement, on est quand même satisfait. Les retours, ils sont très intéressants. Moi, j'avoue que là, on est fin janvier. Écoute, ça prend bien, mais on sait aussi qu'il suffit pas de lancer la machine. Il faut aussi la faire vivre, la faire monter en orbite et puis l'emmener sur Mars. Donc, le voyage est long et ça se fait vraiment pas instantanément. Mais en tous les cas, dans l'intention, dans la définition du programme, dans l'ADN de la marque qu'on se devait de projeter très, très rapidement, je pense qu'on est sur des bons rails. Après, il y a plein de choses à régler. On en est conscient, mais si ça se faisait en une journée, ça, on le saurait. Moi, j'aime bien fonctionner en mode un peu comme nos applications, hein, on fait des mises à jour quotidiennement. Donc moi, je fonctionne en fonctionnalité. Donc là, on a mis les bases en place et puis derrière, on va upgrader petit à petit en rajoutant certaines fonctionnalités pour nos auditeurs.
Alors, tu l'as dit, hein, Europe 2, c'est une marque qui renaît, c'est un ADN aussi qui a été connu pour certaines choses dans le passé. Quelles sont dans le nouvel Europe 2, quelles sont les marques qui justement rappellent cet ADN d'il y a 15 ans?
Alors, il aurait été risqué pour nous de faire une radio de souvenirs parce que l'Europe 2 d'il y a 15 ans, déjà, Europe 2, c'est né en 86. Donc, entre 86 et 2008, ça en était passé des choses avec des hauts, avec des bas, avec différentes périodes, différents personnages. Donc, tous ceux qui ont connu Europe 2 avaient un souvenir de leur Europe 2. Donc, il était pas question de faire un copier-coller. Et puis, même si Europe 2 avait continué à exister, elle aurait changé, elle aurait évolué. On est en 2023. Le monde a changé. La consommation a changé. Nos auditeurs ont changé. Donc, évidemment, on souhaitait retrouver ce qui a laissé la magie, qui fait partie aussi de la magie de la radio sur Europe 2, c'est-à-dire cet esprit plus ouvert, cette connivence, cette proximité avec les auditeurs, revenir sur de la vraie radio. Je dis pas que ce qu'on a fait avant c'était pas de la vraie radio, mais au sens propre de l'accompagnement, au sens propre de la perception que peut en avoir l'auditeur, c'est-à-dire avec un programme qui vit avec lui. Et ça, c'est important. Et c'était le cas d'Europe 2, quelles que soient ces périodes. En tout cas, l'avantage, c'est que cette radio a marqué et que la marque n'était pas du tout abîmée. J'ai croisé personne qui m'a dit « Oh non, mais Europe 2, c'était naze. » Tout le monde a gardé un bon souvenir de cette marque. Donc, c'était important pour nous de rassurer ces gens qui avaient envie de retrouver Europe 2. Et c'est vrai que les retours qu'on a, c'est qu'ils retrouvent quelque chose qu'ils avaient en eux d'Europe 2. Donc, premier bon point. Et puis après, il fallait surtout pas décevoir ceux qui étaient encore nombreux à écouter Virgin Radio et qui font partie des auditeurs et de l'histoire aussi de toutes ces fréquences et de ces belles marques. Donc, il a fallu les rassurer rapidement parce que dire à quelqu'un qu'on va changer de ta radio, c'est juste l'inquiéter. Et comme la nature a peur du vide et que on reste des humains, c'était important pour nous de leur expliquer que ça allait être mieux, différent, mais surtout qu'ils comprennent rapidement qu'ils avaient tout à gagner à ce qu'on change de marque. Et puis pour ceux qui, à 15 ans, soit étaient trop jeunes, soit faisaient autre chose que d'écouter de la radio, mais qui font quand même partie de la cible d'Europe 2, hein, qui est du 25-45-49. Pour eux, c'est une nouvelle radio, donc il y a tout à découvrir, il y a tout à apprécier. Et donc, on a fait les changements nécessaires pour qu'on ne soit pas dans une révolution, parce que la révolution, ça marche jamais, ou en tout cas, ça fait des dégâts, mais dans des évolutions qui permettent de contenter, soit de faire découvrir, soit de retrouver pour ceux qui se mettent à écouter Europe 2 depuis le 1er janvier.
Et si je t'ai bien compris, hein, entre les lignes, c'est quelque part revenir à une certaine spontanéité au final dans
une certaine véracité. Ouais, le côté vrai, pour moi, en tout cas, c'est ce que je défends. Je pense que le côté fake, c'est fini. En tout cas, c'est comme ça qu'en tout cas, en termes de population et de cible, on vise sur Europe 2. Je pense que le côté smile, le côté fausse empathie, ça correspond pas au monde de la radio. La magie de la radio, on sait que ça résonne par une voix, ça résonne par le contenu, ça résonne par la présence de la voix. On peut jouer avec, on peut parler aux gens, on peut les interpeller. On peut s'adresser à eux et c'est ce qu'on doit retrouver sur la radio et qu'on ne retrouve pas forcément sur nos autres concurrents qui ne sont pas uniquement radio.
Bon, on va dire notre avis parce que tu sais, on a un comité éditorial des ondes Vocast. Alors, je vais parler un petit peu de la nouvelle identité visuelle. On était très sceptiques sur le nouveau logo.
Ah bon ?
Très bizarrement, on s'y est fait très vite. Alors, en quelques mois, on s'y est fait très vite. Non, et au final, on a été assez impressionné sur la com, et effectivement, on a été aussi impressionné quelque part sur comment le nouvel Europe 2 a été, s'est vraiment intégré en seulement un mois. On a beaucoup écouté. Et voilà. Alors, sur ce logo, on se demandait justement comment vous aviez travaillé avec l'agence de com pour arriver à ce logo, qui a forcément un petit rappel hein, des derniers logos d'Europe 2 avec le 2 en rouge, mais aussi les lettres en noir qui rappellent le dernier logo. Comment vous avez travaillé avec l'agence de com pour venir à ce logo?
Alors là, c'est leur métier, hein. C'est Rosa Paris, l'agence avec qui on a travaillé sur ces éléments-là. Alors, on a travaillé deux concerts, mais nous, on leur avait fait un brief et c'est eux qui ont créé ce logo. Il a eu quelques modifications, notamment pour la lisibilité et pour la lecture. En tout cas, nous on a fait une réception de ce logo avec eux. On a eu un bel effet waouh parce que c'est aussi ce qu'on cherche. Donc on a apprécié ce logo et puis derrière la déclinaison. Il y avait différentes propositions, mais une déclinaison forte autour de cette onde, hein, puisque le logo, c'est une onde, hein, le logo d'Europe 2, et cette déclinaison avec les artistes sur... voilà. On voulait quelque chose de classieux, on voulait une notion forte, voilà, on voulait que ça représente quelque chose, donc il fallait qu'il y ait un univers, il y a une vraie signature, il y a un style, et mais ça correspondait aussi à ce qu'on voulait faire sur le programme, dans le cadre du développement. Voilà, il fallait que de toute façon notre com, c'était nécessaire, hein. Alors, on a beaucoup travaillé, notamment sur le spot télé, où on est beaucoup revenu dessus, mais c'était important en tout cas qu'on ait une com qui sorte de l'ordinaire, et surtout une com qui corresponde vraiment à Europe 2. Je dis ça, mais c'est parce que c'est pas toujours évident. Hein. Une agence, elle a une vision, et nous, on a le nez dedans. Hein. On pense radio, on vit radio, donc faut arriver à partager avec eux. Et si on va être franc, on s'est beaucoup engueulé, mais au final, tout le monde est content à la fin.
Très difficile, voilà. De changer un logo, très difficile. Voilà. Alors, Europe 2, c'est aussi un nouvel habillage, bien entendu, qui a été réalisé par Wise Buddha, je crois.
Exactement.
Alors, il est très original, hein, avec deux voix off, un homme, une femme, des fois même qui font parfois des mini-sketchs. C'est peut-être une référence à l'ancien Europe 2 aussi, ce genre de format. Comment vous avez travaillé, du coup?
Alors, on va être clair. Hein. Sur l'habillage chanté, c'est Fredo qui s'est occupé pas mal de ça. Donc, Frédéric Pau, en lien avec Domenico Torti, qui est le directeur de la production. Il y a eu un appel d'offres. Sur différents studios et clairement Wise Buddha, en plus moi je les avais rencontrés quelques mois avant pour une autre vie et finalement c'est eux qui avaient un son vraiment particulier. Je dis pas que les autres étaient pas bons, mais on avait besoin d'avoir un son dans l'habillage parce que c'était un vrai retour des jingles chantés sur Europe 2. On avait besoin d'avoir un son avec des jingles très efficaces, avec des slow fast, avec des choses qui relancent le programme en permanence, et puis surtout avec un son qui soit pas entendu. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment une vraie identité autour d'Europe 2. Et on retrouve même, moi, c'est la première réflexion que je me suis faite parce que j'ai la chance par rapport à tous ceux qui sont sur Europe 2. Alors, il y en a quelques autres quand même. Mais j'ai la chance d'avoir été animateur et donc d'avoir vécu Europe 2. Et quand j'ai entendu cet habillage final, après les différents allers-retours, quand j'ai entendu vraiment le produit définitif, j'ai dit... Ça aurait pu être l'habillage d'Europe 2 en 2023 si ça n'était pas arrêté, si on avait été dans la continuité d'Europe 2. Donc, c'était très, très bénéfique. Ça, c'est sur l'habillage chanté. Et puis, il va y avoir plein de choses qui vont arriver aussi avec cet habillage. Là, c'était la première livraison. Et puis, derrière, sur les voix stations, il y avait une vraie volonté de se retrouver avec un retour. Et c'est vrai qu'en France, on a cette chance-là. On a des comédiens de doublage, voilà, d'avoir des vrais comédiens de doublage qui auraient la possibilité de jouer une ambiance, de jouer une scénette, comme on les a appelés. On a remis à l'ordre du jour ce mot scénette. Moi, ce que je voulais surtout, c'était que un programme, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on décline le CLEM, le meilleur son, c'est à la fois un mix musical, on va dire que c'est logique pour une radio musicale, mais c'est aussi une ambiance. Et toutes ces scénettes, elles sont là justement pour donner l'ambiance, pour faire sourire, pour donner un petit côté pétillant et surtout emmener les gens dans un univers particulier. Donc ces scénettes, bah, elles sont écrites par un auteur avec qui moi je collabore directement, on travaille un peu à deux mains là-dessus, qui s'appelle Rachid Galil, Polo, hein, pour ceux qui s'y connaissent en radio, qui était sur une autre radio, et on brainstorm pas mal sur des idées pour arriver à trouver des petits formats courts. On s'en est servi sur des formats un peu plus longs qu'on a décliné aussi sur le digital. L'idée étant vraiment de créer un univers et d'arriver dans une ambiance. C'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait plus. Je dis pas qu'on a, de toute façon, on réinvente rien, on le sait, on l'adapte. En tout cas, on l'adapte au son d'Europe 2 et au contenu d'Europe 2 sur la proximité qu'on doit avoir avec les auditeurs. Moi, j'ai des très très bons souvenirs et c'est un peu ma référence. Je suis content d'ailleurs parce que je les ai retrouvés il y a pas longtemps et je sais que ça va te parler. C'est l'habillage qu'avait pu faire Skyrock en 86 ou 87, qui est un peu dans cet esprit-là. Je dis même qu'on n'en est pas encore au niveau, mais ça a été un plaisir pour moi de le faire écouter aux producteurs pour leur dire. Voilà la référence. Et les mecs, ils ont fait waouh. Et quand je leur ai expliqué que c'était fait à la bande et au collant à la fin des années 80, ils m'ont regardé comme des ovnis. Mais il y avait des choses. Et puis Dom a aussi apprécié parce qu'il a vécu ces époques-là là, avec moi à Fun Radio par le passé ou sur Skyrock version rock justement. Donc voilà, c'est de retrouver cet univers, d'avoir un univers créatif autour du programme. Et je pense que c'est important. Et puis on n'a pas fini parce qu'on a plein d'idées qui vont se décliner là-dedans.
Super, beaucoup de créativité du coup.
Ouais, c'est le but. De toute façon, hein, si on veut sortir du lot, comme je dis, moi, on fait plus forcément de la radio, on fait du programme. Donc, il faut que notre programme il soit essentiellement mis en avant. Hein. On n'imagine pas une bonne série sans bonne lumière. On n'imagine pas une bonne série ou un bon film sans de bons acteurs, sans de bons décors et surtout sans un bon scénario et tout ce qui va avec. Donc, il faut que le réalisateur, voilà, c'est une alchimie et la radio en fait partie.
Alors Europe 2, c'est aussi une nouvelle programmation musicale, enfin toujours dans la continuité, ouais. Mais quand même des ajustements, la fin de l'électro quasiment, une programmation plutôt pop-rock, plutôt pop en journée, plutôt rock le soir. Alors du coup, et aussi pas mal une place assez importante pour les nouveautés. Alors quelque part, ça rappelle un petit peu RTL 2, mais quand on écoute, c'est quand même pas exactement la même chose. Alors, Qu'est-ce qui vous différencie justement des formats les plus proches? Il y a RTL2, bien sûr, il y a FM aussi dans le coin. Qu'est-ce qui vous différencie? Quelle est la marque de fabrique d'Europe 2?
Bah, la marque de fabrique, c'est un son, hein, donc c'est le meilleur son. Alors, c'est facile, hein, ce que je viens de dire, mais justement, pour arriver à se créer cette alchimie, ce mix, c'est d'ailleurs ce qu'on fait bien en radio. Qu'on essaye de faire de mieux en mieux par rapport aux playlists sur les streamers, c'est que nous, on crée une ambiance, on a un savoir-faire pour orchestrer des mix, pour orchestrer des sweeps, hein, comme on dit dans le métier. Je fais exprès de ne pas dire playlist, parce que la playlist, ça veut pas dire la même chose chez nous. La playlist, c'est les titres qu'on rentre, et non pas des titres que l'on diffuse l'un derrière l'autre. En tout cas, nous, on a un vrai savoir-faire là-dessus. Après, on l'ambiance avec des jingles, avec des animateurs. Mais pour revenir sur la musique, certes, il y a des communs, c'est normal. La recette, elle est toujours de ceux qui écoutent la radio, mais c'est pareil aussi chez les streamers, c'est d'avoir envie d'écouter les titres du moment. Mais il faut qu'ils soient encadrés, il faut qu'ils soient ordonnancés, et c'est là-dessus qu'on se différencie. On est sur un son, et on essaye de créer un son, et en tout cas, c'est comme ça que travaillent les équipes de Michael Bois à la programmation. Ils ont cette créativité de travailler avec leur librairie et de construire ces librairies pour qu'on ait un son différent. Donc, oui, on a un son différent d'RTL2 et c'est tant mieux parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et en tous les cas, nous, on se veut renouveler. En tout cas, on a identifié ce qu'on avait envie de faire. Et ça sonne comme on avait envie que ça sonne, ce qui n'est pas toujours évident, hein, sur le papier tant qu'on ne l'a pas démarré. Et quand tu disais tout à l'heure un peu plus rock le soir, oui, il y a une émission rock le soir avec Happy Rock Hour avec Michael, parce qu'on se veut revendiquer ce son. Après, sur le reste, ben, il y a aussi la nouvelle scène, comme tu le dis, on y fait une émission spéciale avec Europe 2 Lab, où là, on va recevoir de plus en plus de monde et on doit découvrir des artistes. Et puis, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'artistes qui arrivent et tellement d'artistes qui sortent qu'il faut qu'on puisse aussi les entendre, les découvrir. Je dis pas qu'on va aller chercher des artistes, on est quand même une radio mainstream qui se doit de faire de l'audience et qui a une audience de gens qui ont envie de découvrir des choses, mais qui ont aussi envie d'avoir un confort dans leur écoute, qui n'ont pas forcément envie d'être énormément surpris, mais qui ont envie d'être surpris dans une logique. Donc, on va pas aller chercher un groupe dans son garage qui commence. Mais dans tout ce qui émerge, tout ce qui sort, il y a moyen pour nous d'aller chercher, chercher de nouveaux artistes qu'on va défendre d'ailleurs sur scène. Mais on en reparlera peut-être après, prochainement. Il y a évidemment une ambiance qui est un peu plus, un mix qui est ouvert, qui est pop rock, mais qui est aussi rock dans la journée. Tu disais qu'il était plus pop dans la journée. Non, il est rock aussi dans la journée, que ce soit avec des groupes récents, hein, notamment avec Maneskin, ou que ce soit avec des groupes comme Muse ou Youngblood, qui est un artiste récent. Voilà, on rentre dans un côté pop rock, mais j'aurais tendance à dire que depuis quelques années, le côté pop s'est bien élargi et c'est ça qui est agréable. Donc ça permet d'avoir un mix beaucoup plus large entre le pop et le rock. On devient sur un schéma pop actuellement qui est plus proche de ce qu'entendaient les Américains par pop, alors que nous, quand on parlait de pop il y a encore quelques années, c'était du rock de soft, quoi. C'était plus ça, la pop, alors que maintenant le côté pop est quand même beaucoup plus large.
Alors tu l'as dit, Europe 2 s'est recentré, et Stéphane Bosque aussi l'a dit dans des interviews dans le cadre de ce lancement. Europe 2 se recentre sur une cible un peu plus âgée, les 25-49. Du coup, dans ce marché, tes concurrents, c'est qui? C'est RTL2, RFM, c'est quel univers?
Non, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, il y a des morceaux en commun, mais c'est le mix qui fait la différence, c'est le son, c'est ce que va dégager. L'auditeur, il raisonne pas comme nous, hein. L'auditeur, il est soit content de ce qu'il y trouve quand il y vient, soit il a envie d'y revenir parce qu'il y a trouvé une vraie appétence. Donc c'est à nous de travailler tout ça. Et après, sur nos concurrents, moi j'ai même tendance à dire que nos concurrents, c'est plus la radio, hein. Nos concurrents, c'est les streamers. Donc moi je me dois d'avoir une proposition forte pour que les gens aient plus envie de mettre la radio quand ils montent dans leur voiture plutôt que de brancher leur téléphone en Bluetooth, quoi, ou sur leur CarPlay.
Alors, toujours dans cet univers de la musique, et tu en as parlé un peu, on a parlé de la nouvelle scène, Europe 2 aussi a une ambition sur l'événementiel. Donc qu'est-ce qui est prévu pour cette première année d'Europe 2?
Bah écoute, déjà le 10 février, un événement alors qui est assez magique, parce que c'est toujours intéressant de voir comment réagissent les auditeurs. Maneskin, un concert exclusif. Alors, un Europe 2 exclusif, c'est la nouvelle marque qu'on lance. Donc, Europe 2 exclusif, le 10 février au Casino de Paris. C'est uniquement pour les auditeurs d'Europe 2. Donc, faut écouter Europe 2 pour avoir ses places. Là, on est vraiment dans une ambiance assez folle parce que ils ont une date à Paris, une date donc à l'Accor Arena qui s'est remplie presque instantanément. Et là, ils viennent spécialement pour Europe 2 pour faire cette date, donc cette date unique au Casino de Paris. Et quand on est fan d'un groupe, hein, à l'heure des grands stades et des grandes salles, écoute, c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir offrir ce genre de choses, donc un concert pour 2000 personnes qui ne les verront jamais d'aussi près que lors de cet événement Europe 2 exclusif.
Comment on négocie un partenariat comme ça pour faire un événement privé pour une radio?
Alors c'est vrai que nous, Maneskin, on reparle un peu de l'avant Europe 2, mais Maneskin, il y a eu un vrai suivi, il y a eu un vrai travail. Donc je pense que les labels s'en souviennent. Voilà, quand on peut travailler de concert sur ce genre de choses, ben eux étaient partants et nous aussi. Et puis après, il y a un relationnel, il y a aussi les artistes qui se souviennent quand ils sont venus, comment ça s'est passé. Voilà, eux, ça les éclate de venir faire ça, tant mieux, on fait ça ensemble. Voilà, c'est pas toujours évident à monter, hein. Voilà, il faut arriver leur agenda soit en adéquation avec le nôtre. Mais en tout cas, les artistes ont un attachement fort auprès d'Europe 2. Pour les croiser et pour discuter avec eux, on s'aperçoit que soit ils ont un passé avec Europe 2, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait hein, lorsqu'on a annoncé les teasings pour l'arrivée d'Europe 2. Moi, j'ai demandé aux artistes d'enregistrer des scénettes qu'on a diffusées à l'antenne et puis des scénettes vidéo. C'est en discutant avec eux qu'on a créé un peu les messages et puis on l'a vu hein, pour chacun, il y avait son identité autour d'Europe 2 et puis ils étaient contents de dire ce qu'ils pourraient faire avec Europe 2 ou ce qu'ils avaient pu faire avec Europe 2 parce qu'il y avait des souvenirs marquants du début de leur carrière ou de la continuation de leur carrière, donc c'est plutôt bien. Donc il y a une proximité avec les artistes et on défend ça aussi avec Europe 2 parce que les auditeurs ont besoin de voir que les artistes qui sont sur Europe 2 apprécient la marque, apprécient la station et puis surtout sont contents d'y être et de faire des choses avec nous et de faire des choses avec leur public qui passe aussi par Europe 2.
Alors d'autres opérations
On va continuer un truc qui était né à l'époque avec Europe 2. Le premier, je me souviens, c'était à Bercy, un Europe 2 Live. Il y avait Placebo. Ça remonte à pas mal de temps. Donc les Europe 2 Live vont être de retour. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont en préparation. Donc là, on est dans un concept avec des salles un peu plus grandes ou pas. On cherche des endroits. Et puis après, on va voir aussi pour travailler avec cette nouvelle scène hein, qu'on défend et pour arriver à travailler avec eux sur des événements concerts, sur Europe de nouvelles scènes, des choses comme ça.
Alors, Virgin est arrivé avec son Morning sans filtre hein, qui est resté sur Europe 2. Un morning qui semble aussi avoir un peu changé de braquet au début, donc entre septembre et décembre. À l'époque, Virgin, ça avait l'air d'être un morning surtout basé sur l'actualité des médias, etc. On a l'impression qu'il s'est un peu recentré au final sur un peu plus sur l'auditeur depuis l'arrivée d'Europe 2. Est-ce que tu peux confirmer ce changement aussi sur le contenu du morning?
C'est un morning qui est tout jeune, hein. Un morning, ça se crée pas en très très peu de temps. Donc il a évolué, c'est normal. Et puis il évolue aussi avec la marque. Il a pas fini d'évoluer, hein. Que ce soit Guillaume, Diane ou Fabien. Ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font le matin, hein, qui réveillent des gens qui les écoutent, qu'il faut s'adapter à eux, qu'il faut être en phase avec eux, et puis qu'il faut être en phase avec la marque Europe 2. Donc il y a un travail qui est fait au quotidien. Alors, moi je vois ça d'un peu plus loin, parce que c'est surtout Fredo qui s'en occupe de ça. Mais en tout cas moi les échanges que je peux avoir avec eux, c'est que ils aiment beaucoup de choses sur Europe 2, donc on l'entend. Moi il y a quelque chose qui me plaît. J'en discutais justement avec Guillaume Janton, donc il y a pas longtemps, on a lancé un jeu qui s'appelle l'ascenseur Europe 2, un jeu que j'ai mis en place et que j'ai travaillé avec les équipes et qui est un cash game mais avec une forte zone émotionnelle. Voilà, la sensation est particulière pour l'auditeur qui écoute, aussi pour celui qui joue, parce que ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, l'auditeur qui écoute, lui, il trouve son plaisir puisque il se dit « qu'est-ce que je fais ?» Alors, le concept, hein, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est « oserez-vous monter jusqu'à 5000 euros ?» Donc, on monte dans l'ascenseur Europe 2, un premier palier avec une somme, un deuxième palier, ainsi de suite. Mais à chaque fois, il faut se poser la question de savoir si on ose monter au palier suivant. Il y a peut-être 5000 euros qui se cachent sur le palier suivant, comme il peut y avoir une somme plus petite. Et à ce moment-là, c'est perdu. Donc, il y a un vrai ascenseur émotionnel, justement. C'est l'ascenseur Europe 2. Guillaume s'éclate à faire ce jeu. Il le fait admirablement bien. Il le travaille avec une vraie finesse. Et puis, les auditeurs, ils trouvent leur compte. Même ceux qui joueront peut-être jamais, on a des retours, parfois des gens qui rentrent vraiment dans le jeu. Et c'est ça aussi la magie de la radio. On arrive à faire des très bons moments de radio avec ce genre de choses. Plutôt que d'avoir juste un jeu où on offre quelque chose. Ouais, super, t'as gagné. Là, on essaye d'avoir un moment de radio pour celui qui a envie de s'y risquer et de venir sur l'antenne. Et puis surtout pour celui qui écoute.
Alors Europe 2 aussi hein, dans l'ADN d'Europe 2 à l'époque c'était aussi le local hein, parce que Europe 2 s'est créé sur tout un réseau de radios locales. L'année dernière,
Europe 2 à l'époque.
Exactement, le programme Europe 2, fournisseur de programmes. Et l'année dernière, Virgin, donc Lagardère, voulait fermer pas mal de radios locales en province. La plupart, je crois, ces fermetures ont été refusées par l'ARCOM. Donc du coup, Europe 2 reste sur un réseau au final assez important de radios locales. Est-ce qu'il y a une ambition pour fort de ce réseau, de réinvestir quelque part sur le local et de réaffirmer cette présence sur le local qui était donc dans l'ADN original d'Europe 2?
Écoute, alors ça, je m'en occupe très peu parce que ça, c'est pas du tout dans mon périmètre. En revanche, j'ai eu une autre vie, mais il y a bien longtemps, parce que j'étais le directeur des réseaux de RFM et de Virgin Radio à l'époque. Moi, j'ai toujours appuyé en disant que il fallait en faire une force, et c'est important parce qu'il y a des talents en région, hein, il y a des journalistes, il y a des animateurs, il y a des... Alors là, ça me concerne un peu plus puisqu'ils font partie de mon équipe. Il y a des responsables promo. Moi, je pars toujours du principe que l'auditeur, il est partout en France, hein, et donc faut aller le chercher chez lui, et il faut lui parler de chez lui aussi. Il faut arriver à le faire d'une manière différente, et on y travaille aussi de ce côté-là pour retrouver justement ce ton Europe 2 qui existait auparavant, aussi bien sur le programme Natio, mais l'auditeur, lui, il cherche pas à savoir si c'est du Natio ou du local. Ce qui est important pour lui, c'est de retrouver son programme Europe 2. Donc, que soit avec, c'est une carrière qui est la rédactrice en chef pour les journalistes, donc il y a des choses qui sont mises en place pour qu'on retrouve cet univers d'Europe 2. Et puis, pour les animateurs locaux qui sont pilotés par Geoffrey Touza, c'est pareil, il y a un vrai travail. Moi, j'ai tendance à dire, plus nos animateurs nationaux seront dans le son Europe 2, plus ce sera facile, parce que quand on est guidé, quand on a un mentoring, quand on a des maîtres étalons, c'est toujours plus facile de comprendre exactement, surtout dans la radio, par la démonstration, de comprendre ce que l'on doit faire et à quoi doit ressembler le programme.
Alors, chez Sud Radio, tu étais notamment en charge du numérique, et tu l'es aussi, hein, tu l'as dit au début de cet entretien, tu es aussi en charge de la partie numérique. Donc, quelle est la stratégie sur le numérique pour Europe 2?
Alors là, on démarre sur le numérique une nouvelle marque, donc ça a des enjeux. Alors il y a des enjeux qui sont un peu embêtants parce qu'on a dû faire disparaître pas mal de contenus qui étaient labellisés Virgin Radio puisqu'on n'a plus la licence. Alors là, on travaille pas mal sur des éléments de SEO, notamment sur le site, hein, où il faut que les robots reviennent nous voir. Mais ça commence à bien prendre. Et puis après, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à dire que je ne fais plus de la radio, je fais du programme, et que donc tout ce que l'on construit autour du programme premium, qui va dire qui est celui de la radio, il faut qu'on le décline de manière digitale, donc sur le numérique. Et en plus, en le déclinant selon les codes de chaque réseau. Il suffit pas d'extraire quelque chose et de le publier. Il faut respecter les codes de chaque réseau. Les codes de Insta ou de TikTok ne sont pas les mêmes. Les codes de YouTube sont encore plus différents ou de Facebook. Donc, on est en train de travailler pour étoffer tout ce travail, de profiter de la chance qu'on a, c'est-à-dire d'avoir des événements uniques, d'avoir des artistes qui viennent, des artistes qui jouent le jeu, pour que on puisse travailler des événements et des moments uniques aussi bien en radio, des effets waouh en vidéo, et donc des effets waouh sur le digital en radio, et puis aussi sur les podcasts qui sont importants pour nous.
Alors justement, quelle est l'offre? Alors il y a des web radios, hein, qui existaient déjà à l'époque de Virgin. Et est-ce que sur les podcasts, vous avez une politique pour des podcasts natifs?
On a une politique sur les podcasts qui sont d'abord un peu comme toutes les radios, les podcasts qui sont plus du replay, hein, de pouvoir venir écouter une émission qu'on n'a pas entendue en entier ou qu'on veut réécouter, ça existe. Et puis après, on est déjà sur quelques éléments natifs, mais qu'on va vraiment tenter de développer, prendre plus de temps pour certaines choses. On le fait en vidéo aussi, hein, et pas uniquement en podcast, sur des mini interviews qu'on commence à lancer, qu'on retrouve sur les réseaux avec les artistes. Et puis on a Clément et Sandra aussi qui font un podcast, ils vont s'y remettre là, ils l'avaient fait avant le passage à Europe 2, qui sont un peu une émission dans l'émission qu'ils enregistrent avec un autre délire en prenant d'autres codes qui sont plus ceux du podcast pour pouvoir s'exprimer par rapport à leur univers, leur style, leur vécu, ce qu'ils ont envie de raconter, donc avec Clément Lanoux et Sandra Cohen. Et après, sur le digital en lui-même, on a plein de choses en projet, mais là, pour l'instant, c'est trop tôt pour que je puisse en parler.
Bruno, une dernière question. Virgin Radio en décembre a terminé à 2,5% d'audience cumulée. Alors le marché radio dans l'ensemble est très fortement, de manière assez importante à la baisse, mais toujours fort de 39 millions d'auditeurs chaque jour.
Exactement.
Ce qui reste un média très important. Est-ce que toi et l'ensemble de l'équipe a un objectif d'audience pour Europe 2 à un certain horizon de temps?
Moi, je dirais on a un objectif de se faire plaisir d'abord, et ça se ressentira dans les audiences parce que les auditeurs s'y retrouveront. On a un objectif de victoire parce qu'on fait pas ça par hasard. Hein. C'est un métier où on aime les victoires. Moi, je suis content d'avoir eu plein de victoires dans ma vie, d'avoir des victoires d'audience parce que il faut quand même un étalon. En tout cas, on fait tout pour ça. Après, sur un objectif chiffré, ça aurait pas de sens. Évidemment qu'il faut qu'on ait des résultats, sinon c'est imparable. C'est implacable. Donc, je veux dire, on est obligé d'avoir des résultats rien que pour se faire plaisir, pour se dire, on a fait des choses bien. En tout cas, ce que j'ai envie, c'est de ne rien regretter et qu'on aille jusqu'au bout et qu'on aille à fond. Donc, là, c'est plutôt bien parti. Après, oui, il y a, comme disent les politiques, les résultats des urnes. La campagne peut être jolie, mais derrière, il faut des chiffres. Mais je dirais qu'il faut surtout un peu de temps parce que, il faut laisser le programme s'installer, il faut du temps pour que les auditeurs viennent goûter, il faut du temps pour que les auditeurs prennent l'habitude. Devenir une radio favorite, c'est pas instantané, hein. Et puis on est toujours dans un système majeur pour les sondages qui est lié à des interviews, l'écoute de la veille. Donc le fameux top of mind est quand même important. Donc il faut laisser le temps, mais en tout cas il faut séduire pour être récompensé. Donc voilà comment on le travaille.
Bruno Dubois, directeur du développement d'Europe 2, merci beaucoup.
Merci Olivier.
Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast.
Et c'est la fin de ce podcast. Merci à Bruno Dubois d'Europe 2 et aussi à Rémi Bertolon et à Julien Vigier. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. C'est tous les premiers du mois depuis 2018. Parlez-en autour de vous, likez, faites-nous connaître et envoyez vos idées sur vocast.fr et sur nos réseaux sociaux. C'était Olivier Audoux au micro et on se retrouve le 1er mars. Salut!
Des ondes Vocast.